À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Marche en ma présence », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Pour explorer le thème de marcher en présence de Dieu. Comme peintre, j'avais commencé à tracer le fond de mon portrait par des considérations sur l'amour, l'amour humain. Je voudrais poursuivre ce travail. Mettre les plages de couleurs dans le fond de la toile pour décrire un peu qu'est-ce que c'est qu'une personne qui marche en présence de Dieu. C'est tout d'abord une personne qui expérimente l'amour, l'amour humain et l'amour de Dieu. À la dernière rencontre, nous découvrions le fait que l'amour humain porte en lui des insatisfactions. Nous n'arrivons jamais, quand nous nous aimons, à coïncider avec la personne aimée. L'autre est toujours l'autre. Il échappe toujours aux prises que nous aimerions avoir sur elle. Les différences, au lieu de s'abolir, s'accentuent dans la rencontre pour nourrir le désir et l'entraîner dans des terres inconnues. L'intense désir que porte l'amour, désir de présence, s'exaspère, pour ainsi dire, de ne rencontrer qu'une absence, une absence plus profonde et plus attrayante. C'est assez étrange, les gens nous le disent, on l'expérimente nous-mêmes. L'absence physique creuse souvent en nous une présence plus profonde de la personne aimée. L'absence, même lorsqu'elle s'accompagne de terribles souffrances, devient plus désirable que la présence qui ne saurait combler. Qui a écrit que l'absence est à l'amitié ce que le vent est au feu? Il éteint les plus petits et il attise les plus grands. L'amour ne serait-il pas entièrement fait de ce continuel arrachement de soi vers l'autre, toujours en fuite, inépuisable? Mystérieux, qui perd gagne. Ce renoncement à soi n'est pas mutilant ni destructeur, il apparaît au contraire merveilleusement, comblant et gratifiant. Source étonnante de créativité, de fécondité. Le dépaysement qu'il entraîne est celui qui fait place à la découverte émerveillée, dynamisante de la recherche, insoupçonné de l'inconnu, du nouveau. De quel dépassement ne sont pas capables les grands amants? Tu es plus que ma vie. Tu es ce qui la fait déborder au-delà d'elle-même. Toi par qui j'ai honte de n'être que moi. Si, selon saint Augustin, aimer, c'est devenir inutile, si l'amour rend pauvre, comme le veut Freud, s'il fait découvrir réciproquement le manque, la béance profonde de son désir. Cette pauvreté n'est pas mutilante ni destructrice, elle creuse, au contraire, l'espace du don à venir. Elle fait place pour la vie qui s'annonce. Elle est la matrice de la joie à naître. À la limite, cette pauvreté est l'expression de liberté. Elle ouvre de vastes champs de liberté. Elle dispose et introduit à la pure gratuité. Voilà l'inexplicable. Qu'on puisse vouloir se perdre pour un autre et qu'on puisse gagner à se perdre. L'amour, tout le mystère de l'existence, qu'on puisse accepter de se perdre et de gagner à se perdre. L'amour humain, par l'amplitude démesurée du désir, offre une véritable ouverture sur l'absolu. L'amour humain fait pressentir l'amour de Dieu. Les lancinantes insatisfactions qui le caractérisent apparaissent pour lui comme les stigmates du divin. C'est ce qu'Olivier Clément nous dit. Dieu se sert de l'amour humain pour entrer incognito dans la vie des hommes. La joie que vous donnez à l'être aimé n'est si exaltante que parce qu'à travers elle, Dieu lui-même se donne. Que parce qu'à travers elle, Dieu vous assoiffe d'éternité, l'un et l'autre. L'amour humain est vraiment transformé quand émerge dans le devenir de la personne la dimension spirituelle. Si l'homme est capable de Dieu, c'est que son cœur est marqué par une soif d'infini, qu'il est un immense écrin assez vaste pour contenir l'infini. Il y a ainsi dans l'amour humain, comme en creux, à la fois un appel et une anticipation de la révélation du Dieu-amour qui sera faite en Jésus-Christ. Jésus contredira les épopées babyloniennes qui présentaient la divinité comme jalouse de leur vie, vie qu'elle refusait de partager avec les humains. Jésus fera encore mentir Aristote qui disait que Dieu devait recevoir l'amour, mais n'en avait pas à donner. Jésus fera mentir aussi Platon qui affirmait dans Le Banquet l'impossibilité de la rencontre entre Dieu et l'homme. On connaît la phrase célèbre de Valérie à la fin de ses jours. Le mot amour s'est trouvé associé au nom de Dieu depuis le Christ. Et le vieux Saint Jean, comme pour résumer le cœur de son expérience de rencontre avec Jésus, traçait ces mots de feu dans la première de ses épîtres. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Comme l'aimant qu'on maintient sous un papier, condense et oriente la limaille, éparse sur la feuille, l'amour coordonne tous les mystères du christianisme. La définition de Saint Jean, Dieu est amour, est l'équation fondamentale du christianisme. Comme la célèbre formule d'Einstein, E égale MC2, constitue, paraît-il, la clé de l'univers, ces trois mots, Dieu est amour, fournissent la seule solution à l'énigme de l'humanité. Amour donné par le Père, reçu par le Fils, répandu par l'Esprit. Ce que nous dit la Trinité, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu amoureux. Ce n'est pas un célibataire, solitaire. La Trinité est un nœud de relation où le Père aime le Fils renvoie son amour au Père dans une relation parfaite qui s'exprime par l'Esprit. Notre Dieu est un Dieu amoureux qui nous dit « Ma joie, c'est ton bonheur. Je suis joyeux à cause de toi. Dans mon amour, je te renouvelle. » Personne que j'accompagnais avait trouvé le centre de sa vie dans cette sorte de découverte éblouissante. « Our God is an happy God. » Notre Dieu, c'est un Dieu heureux et qui nous veut heureux. Nous atteignons ici ce qui est premier et fondamental dans notre foi et notre religion chrétienne. L'expérience bouleversante de découvrir que Dieu nous aime. Dieu est amour. Il n'est qu'amour, précise le Père Verrion. Voilà qui est solide et qui est sûr. Dieu est amour. L'amour de Dieu pour nous est la seule chose dans la vie qui soit inébranlable. Quelqu'un a comparé cet amour au poing d'Archimède, hein, qui disait « Donnez-moi un poing solide, je vais vous soulever l'univers. » Révélation époustouflante, inouïe, déconcertante, inimaginable, scandaleuse. Si nous savions la tendresse de Dieu, la folle tendresse de Dieu pour nous. Les textes bibliques n'arrêtent pas d'essayer de décrire cet amour de Dieu. Toutes les images convergent pour décrire cet amour de Dieu. « Vois-je t'ai gravé sur la paume de mes mains. » Jésus lui-même condense et incarne en lui-même tous les mots de tendresse que nos ancêtres dans la foi ont recueillis dans la Bible pour nous dire Dieu qui se révélait. La Bible ne fait que raconter l'amour de Dieu. Et elle utilise toutes les images humaines possibles pour traduire l'amour de Dieu pour nous. Amour d'un père, amour d'une mère, amour nuptial, amour d'un ami, amour d'un époux, d'une épouse. L'amour de Dieu pour nous est un amour jaloux. Des idoles dans l'Ancien Testament sont de faux amants. Et l'idolâtrie, comme vous le savez, est désignée d'après l'image de l'adultère. Le mot adultère signifie aller à un autre qu'à celui qui nous aime. Même accumulées, ces comparaisons sont toujours déficientes et souvent trompeuses. Il faut donc renverser les perspectives. C'est pas l'amour humain qui nous fait comprendre l'amour de Dieu. C'est beaucoup plus l'inverse. C'est l'amour que Dieu a révélé qui nous fait comprendre nos amours humaines, qui peut nous éclairer sur l'amour humain et nous en révéler le vrai visage. Ce qui est premier et fondamental dans notre religion chrétienne, ce n'est pas tant pour nous d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Ce qui est premier et fondamental, c'est de découvrir que Dieu nous aime et de nous laisser aimer par lui. Reconnaître que Dieu est amour et laisser Dieu être Dieu dans notre vie. Telle est la conversion la plus décisive qui puisse se produire chez une personne humaine. Une véritable révolution copernicienne que décrit très bien Henri Nouwen. Pendant la majeure partie de ma vie, écrit Henri Nouwen, j'ai lutté pour trouver Dieu, pour le connaître, pour l'aimer. J'ai essayé très fort de suivre les directives de la vie spirituelle, prier sans cesse, travailler pour les autres, lire l'Écriture. J'ai essayé d'éviter les tentations nombreuses, de me disperser. J'ai échoué plusieurs fois, mais j'ai toujours essayé de nouveau, même quand j'étais proche du désespoir. Maintenant, je me demande si j'ai suffisamment réalisé que pendant tout ce temps, Dieu essayait de me trouver, de me connaître et de m'aimer. La question n'est pas « comment vais-je trouver Dieu ?» mais « comment vais-je me laisser trouver par lui ?» La question n'est pas « comment vais-je connaître Dieu ?» mais « comment vais-je me laisser connaître par Dieu ?» Et finalement, la question n'est pas « comment vais-je aimer Dieu ?» mais « comment vais-je me laisser aimer par Dieu ?» Ce changement de point de vue, ce passage d'une approche morale, j'ai des choses à faire pour Dieu, il faut que je l'aime, que j'aime mon prochain, à une approche de foi, c'est Dieu qui a des choses à faire dans ma vie. Ce changement de point de vue, de perspective, opère un tel bouleversement dans la vie spirituelle que les personnes ont l'impression, littéralement, de changer de religion. De découvrir dans l'émerveillement un tout autre paysage religieux insoupçonné. Dieu nous aime, nous sommes les personnes les plus aimées au monde, pas par comparaison, mais parce que celui qui nous aime a un cœur de Dieu. Nous sommes aimés par quelqu'un qui est Dieu et dont l'amour n'a pas de limite. À vrai dire, écrit Etty Hillesum, on ne devrait écrire des lettres d'amour qu'à Dieu. Voilà bien la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a annoncée. Jésus nous a révélé le cœur de Dieu. Il a ouvert une porte sur le cœur de Dieu que nul ne pourra refermer. Dieu, c'est le maître ami de la vie. Il est vivant, il est agissant, il est engagé dans notre histoire. Et il n'a pas de plus cher désir que de nous partager sa propre vie. Nous sommes comblés de ses bénédictions en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus les bien-aimés du Père. Être le bien-aimé, c'est la vérité centrale de notre existence. Il y a beaucoup de personnes qui sont partie à la découverte de cet amour de Dieu pour nous. Et cette découverte est une aventure passionnante. S'il est bon de chercher à comprendre la richesse de notre façon d'aimer, combien meilleur d'entreprendre l'exploration de la manière d'aimer de Dieu. Nous n'avons pas assez d'une vie pour y parvenir. Et l'amour de Dieu est si différent du nôtre. Et ce qu'il y a de plus merveilleux encore, c'est que nous sommes appelés à aimer comme Dieu nous aime. Il existe dans l'Écriture une règle de trois chez saint Jean qui nous dit ceci, « Comme le Père m'a aimé, » c'est Jésus qui parle, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Et un peu plus loin, au chapitre 15e, Jésus reprend, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Nous sommes appelés à aimer comme le Seigneur aime. C'est une perspective époustouflante, proprement révolutionnaire, source en nous de radicales transformations dans notre façon d'aimer. Notre manière d'agir en ce sens est promise à des transformations majeures. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans cette perspective, nous pouvons nous interroger. Quels sont donc les traits caractéristiques de l'amour de Dieu qu'il nous est possible de découvrir dans la Bible, qu'il nous est possible de reconnaître dans la vie de Jésus? Je vous présente comme des traits de pinceau sur la toile. Je vous présente 8 caractéristiques essentielles de l'amour de Dieu pour nous qui s'imposent facilement à nous, qu'on peut reconnaître facilement et qui nous amènent à tracer le portrait merveilleux de l'amour de Dieu pour nous. Première caractéristique, Dieu nous aime le premier. C'est caractéristique de l'amour de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu est amour et en ceci consiste son amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimé le premier, qui a envoyé son Fils. C'est sûrement là le verset le plus central du Nouveau Testament, commente Jean Lafrance, qui explique l'amour trinitaire et l'incarnation du Verbe, l'initiative, l'amour de Dieu, non seulement de nous faire exister, mais de s'approcher de nous pour faire de nous ses compagnons de voyage. Si les religions naturelles expriment la recherche de l'homme désireux de rencontrer Dieu, le christianisme, à l'inverse, c'est la recherche de Dieu qui veut rencontrer sa créature. Le mouvement est totalement inversé. Il y a un vieux mystique iranien qui écrivait « Pendant 30 ans, je marchais à la recherche de Dieu, et lorsque j'ai ouvert les yeux, au bout de ce temps, j'ai découvert que c'était lui qui me cherchait. » Dieu nous aime toujours le premier. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Deuxième caractéristique de l'amour de Dieu, c'est un amour créateur. Nécessairement, puisqu'il est premier, il fait exister et il transforme les êtres qu'il aime. Son amour n'est pas comme le nôtre, qui est un amour de consommateur. L'amour de Dieu fait exister ce qu'il aime. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est bon, qu'on est beau, qu'on a de beaux yeux. C'est l'inverse qui est vrai. Si nous existons, si nous sommes bons et beaux, si nous avons de beaux yeux, c'est parce que Dieu nous aime. Il faut renverser les perspectives. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes dignes d'amour, mais nous devenons dignes d'amour parce qu'il nous aime. Nous sommes beaux, bons, intelligents, parce qu'il nous aime. On ne mérite pas l'amour de Dieu. Deuxième caractéristique. L'amour de Dieu est créateur. Il fait exister ce qu'il aime. C'est à l'inverse de notre façon d'aimer les choses parce qu'elles sont bonnes. L'amour de Dieu, troisième caractéristique, c'est un amour inconditionnel. Forcément, puisqu'il est premier. Il n'est pas à la remorque de nos mérites et il n'est pas découragé par nos bêtises. Il nous aime, point, sans condition. Des fois, dans l'Ancien Testament, on a l'impression que le Seigneur met des conditions. Si vous faites ceci, je vais être votre Dieu. C'est la découverte bouleversante que nos ancêtres dans la foi ont faite avec le temps et surtout avec la révélation de Jésus-Christ. Les « si » n'existent plus. Il n'y a pas de condition. Dieu nous aime pécheurs. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Amour inconditionnel. Et parce qu'il est inconditionnel, autre caractéristique, l'amour de Dieu est indestructible, il est inébranlable. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8e. Ce qui manifeste, et c'est une autre caractéristique, ce caractère inconditionnel et indestructible, c'est l'amour de pardon. S'il y a quelque chose de divin, c'est bien le pardon. Aimer qui ne nous aime pas. Aimer quelqu'un qui nous veut du mal, qui nous fait du mal. Ça prend le cœur de Dieu pour fonctionner ainsi. L'amour de pardon, le pardon, c'est le signe le plus clair que quelqu'un nous aime. Jean Corbon suggérait, ce qui est très dangereux, si vous voulez savoir si votre ami vous aime, faites-lui le pire mauvais coup et regardez s'il vous aime encore. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et cet amour, ce n'est pas un amour en l'air, c'est pas de la belle théorie, c'est un amour incarné. L'amour de Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, un amour réel, effectif, en acte, amour incarné en Jésus-Christ qui s'est donné des mains et des pieds pour nous rejoindre jusqu'au fond de notre mort pour y planter la vie.
Vous venez d'entendre « Sous l'Olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.